13h, 14h, tout terrain.
Fabienne Lemoyle sur Europe 1.
Ravi de vous accueillir dans Tout Terrain, l'émission des reporters d'Europe 1. Vous connaissez le principe, Tout Terrain, c'est l'actualité racontée par ceux qui l'ont couverte. L'actualité cette semaine, c'est qu'on débat à travers toute la France, plus de 200 réunions rien que ce week-end. Rémi Pierre a assisté à la toute première mercredi soir dans le Rhône. Vous entendrez qu'on ne parle pas que pouvoir d'achat et pas mal de gilets jaunes se demandent sur quoi va déboucher cette grande consultation nationale. Débat ou pas, la mobilisation est toujours d'actualité pour cet acte 10. Comment les forces de l'ordre vivent ces manifs à répétition? Europe 1 était en direct du commissariat d'Amiens hier et ce sont des policiers parfois fatigués que Jean-Sébastien Soldaini a suivi au cœur des manifestations. Nouvelle journée d'action alors que la polémique monte autour des lanceurs de balles de défense. Théo Manval a recueilli le témoignage de plusieurs gilets jaunes blessés graves. Et puis Pierre de Cossette du service police-justice d'Europe 1 nous dira pourquoi les forces de l'ordre jugent pourtant indispensables ces armes. Nous irons à Boulogne-sur-Mer où les pêcheurs sont inquiets à cause du Brexit. Et puis si, l'humour peut virer au sexisme, nous dira Yves Roger. Enfin, Julien Froment a suivi les stars du PSG au Qatar. Voilà pour le programme Tout Terrain, c'est parti.
L'actualité de la semaine racontée par ceux qui l'ont couverte avec Fabienne Lemoyle sur Europe 1.
Le grand débat national a donc été lancé, déjà 360 réunions, 200 rien que pour ce week-end, je vous le disais, ça va durer 2 mois. Alors comment ça se passe concrètement sur le terrain? Qui répond à l'appel? Comment les revendications des Français vont remonter jusqu'à l'exécutif? C'est ce que les reporters et correspondants d'Europe 1 ont commencé à vous faire vivre sur l'antenne cette semaine. Bonjour Rémi Pierre.
Bonjour Fabienne.
Correspondant d'Europe 1 dans la région Rhône-Alpes, vous avez donc assisté mercredi soir près de Lyon à ce qui a été présenté comme le premier débat de cette grande consultation nationale. Déjà, plantez-nous le décor. Comment ça s'est passé? Parce que je crois que c'est le maire lui-même qui a choisi les règles du jeu.
Effectivement, et ça s'est passé bien dans un gymnase, le gymnase Maryse Bastier. Il y avait plus d'une centaine de chaises qui étaient disposées en rond. Et au milieu, le maire justement de Saint-Germain-au-Mont-d'Or, Renaud Georges. Il faut savoir qu'il est proche de La République En Marche et qu'il est également l'attaché parlementaire de la députée LREM de la circonscription. Alors il a justement fixé les règles du débat. Bien la première, c'est qu'il ne voulait pas se cantonner aux 4 grands thèmes qui ont été définis dans sa lettre par le président de la République. Et puis il a expliqué ensuite le déroulement. Donc on pose des questions. Ensuite, à la fin de la soirée, les participants vote grâce à des post-it de couleurs différentes sur les 3 thèmes qu'ils souhaiteront ensuite voir débattre plus en détail dans d'autres débats qui auront lieu toujours dans cette commune de Saint-Germain-au-Mont-d'Or.
Alors on l'a dit, c'était a priori le premier débat organisé. Est-ce qu'il a eu du succès?
Bah écoutez, il y a quand même eu près de 150 personnes mercredi soir. La commune compte 3000 habitants, donc le ratio est quand même pas mal, surtout pour un débat qui
c'est
a
quoi
été...
cette commune d'ailleurs?
Alors c'est une commune de l'ouest lyonnais, c'est ce qu'on appelle les Monts d'Or. C'est plutôt, on va dire, la banlieue cossu de Lyon, hein, même si le maire a tenu à préciser, attendez, chez moi, il y a quand même 35% de logements sociaux, il l'a répété à plusieurs reprises. Alors les personnes qui étaient présentes mercredi soir, c'était beaucoup de retraités, des quadragénaires, des quinquagénaires, très peu de jeunes, ça a d'ailleurs été regretté par le maire. Et puis il y avait également quelques gilets jaunes, ils venaient de Villefranche-sur-Saône, qui est située à quelques kilomètres, une commune beaucoup plus urbaine et beaucoup plus populaire, et ils avaient été précisément invités par le maire, par Renaud Georges.
Et comment s'est distribuée la parole?
Ça s'est fait assez naturellement. Le maire était au milieu, je vous le disais, avec son micro. Et ensuite, justement, les premiers thèmes sont arrivés de manière assez cash. Écoutez ce retraité.
On nous dit qu'il n'y a pas d'argent. Alors, quand on entend les actionnaires du CAC 40 qui ont fait un bénéfice de 57 milliards, 15% de plus. Qu'on arrête de se foutre un peu de notre tête.
Alors les questions vont s'enchaîner assez rapidement et elles vont être dans un premier temps très proches de ce qu'on a pu entendre comme revendication des gilets jaunes depuis le mois de novembre.
Là finalement il va devenir urgent de travailler sur ce revenu minimum quelque part, sans ça, ça va exploser.
Mais lorsqu'une grande décision s'impose, il faut en revenir au peuple. C'est la revendication principale donc, des gilets jaunes qui est ce référendum d'initiative citoyenne.
Il y a des gens actuellement qui, en France, n'ont pas de quoi se nourrir. Il y a des personnes qui viennent autour d'un rond-point parce qu'elles ont plus chaud autour d'un rond-point que chez elles.
Très bien. Monsieur. Transition énergétique, c'est le sujet du jour. Il faut être aveugle pour ne pas voir que c'est ce qui va influer en fait, sur notre survie.
Très rapidement, en tout cas sur la deuxième partie de la soirée qui a duré 2 heures, il y a eu beaucoup, beaucoup de questions, beaucoup de thématiques autour de cette transition énergétique.
Alors ça ne peut pas être surprenant parce que la transition énergétique, ça paraît décalé. Ce n'est pas les premières revendications qu'on a entendues sur les ronds-points.
Mais effectivement, mais c'est lié, comme on le disait, au fait que c'est une commune, on va dire, où il y a pas beaucoup de grosses difficultés et où c'est plutôt la fin du monde finalement qui préoccupe les gens plutôt que la fin du mois. Ça a d'ailleurs été pointé par les quelques gilets jaunes, je vous en parlais, qui étaient présents mercredi soir. Du coup, il y a eu un petit décalage. Les gens ont discuté entre eux. Je vous propose d'écouter justement cet échange entre Cyril, un habitant de Saint-Germain-en-Maudor, et un des gilets jaunes qui était présent.
Au début du mouvement, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est des gens qui se plaignent, ils savent pas de quoi ils parlent, etc. Le mouvement des gilets jaunes. Et aujourd'hui, je comprends ce qui s'est passé. Donc, ne dites pas qu'on vous méprise, c'est pas vrai. Mais
si, ce soir, écoutez, j'ai vraiment senti qu'on les a méprisés. Non. Quand je vois ce que je vois là, regardez-le bien. T'as l'écologie là-bas qui est blindée, à côté de la solidarité, il n'y a rien. Les citoyens de ce soir, ils s'en foutent. Non, mais ils s'en foutent de ces 10 millions de personnes qui crèvent la dalle.
On voit que l'échange est tendu. Alors, comment ça va être pris en compte dans le grand débat national?
Alors donc, il y a eu les trois grands thèmes qui ont été mis en avant par les participants hier, avec un premier débat justement autour de ce thème de la transition écologique. Des débats qui vont donc déboucher sur des propositions. Et puis quand ces propositions seront finalisées, eh bien, elles sont soit transmises au président de la République, à l'Élysée, soit eh bien, directement inscrites et mises sur le site internet du grand débat. Il faut vraiment aller vers le concret maintenant. C'est comme ça que Renaud Georges, le maire, a conclu, parce qu'il ne suffit pas de débattre, il va falloir trouver des solutions et les proposer.
Merci beaucoup Rémi Pierre. On le voit, les choses commencent à s'organiser pour faire émerger donc ces revendications, ces doléances des Français. Et ça va prendre sûrement des formes différentes hein, suivant les communes. Mais en tout cas, on vient de l'entendre, les Gilets jaunes s'interrogent sur la pertinence de participer à ce débat. Bonjour Jean-Gabriel Bourgeois.
Bonjour.
Vous étiez mardi, vous, à Grand-Bourtheroult, je l'ai bien dit, en Normandie, ouais. Là où Emmanuel Macron a lancé son Tour de France avec un marathon de 7 heures devant les maires de la région. On en a beaucoup parlé sur l'antenne. Mais ce qui m'intéressait avec vous dans Tout Terrain, c'est que vous êtes allé à la rencontre des Gilets jaunes qui auraient voulu discuter directement avec lui. Au final, ils ont vu Emmanuel Wargon, la ministre.
Oui, alors ça a été d'ailleurs un peu compliqué. Hein. Lundi soir, donc la veille de la venue d'Emmanuel Macron, plusieurs gilets jaunes de tout le département de l'Eure se sont réunis à Brionne, au rond-point de la Lune, pour s'organiser. Et ils ont fait une liste de leurs revendications. Alors là, c'est plutôt une mesure concrète pour restaurer du pouvoir d'achat. C'est baisser la TICPE, la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques. C'est la taxe sur le carburant.
Donc en contradiction avec ce qu'on vient d'entendre, effectivement, du côté de Lyon.
Exactement. Car pour eux, l'essence, c'est vraiment devenu un produit de première nécessité. Il voulait voir Emmanuel Macron, mais c'est Emmanuel Wargon qui a accepté de les recevoir. Là, on est mardi, il est midi. Grand-Bourtheroult est complètement bouclé,
oui, encerclé. C'était Fornox. Hein. Voilà, encerclé. Il fallait montrer patte blanche pour rentrer.
Ah, hein. Complètement. Et c'est ce qui s'est passé d'ailleurs.
Pour vous aussi.
Eh ben oui, j'étais d'ailleurs à leur côté, aux côtés de la délégation de Gilets jaunes, quand on a passé les contrôles. Ça a duré plusieurs minutes. Contrôle des cartes, etc., avant de pouvoir entrer dans le village. Fouiller les sacs, fouiller le coffre de la voiture. La rencontre a duré trois quarts d'heure à la mairie de Grand-Bourtheroult. Et à la sortie, beaucoup nous ont dit que c'était un premier pas.
Est-ce que ça les a convaincus de participer à ce grand débat, alors que ceux que vous avez rencontrés, c'est vraiment des gilets jaunes de la première heure?
Voilà, donc le soir, retour dans leur village à Brionne, au rond-point de la Lune, rebaptisé depuis le début du mouvement le rond-point des Braves. Et ils ont construit une cabane en dur avec de la tôle, des palettes de bois. Elle est toujours là, oui, tout à fait. Même un feu de cheminée, une prise électrique également. J'ai même pu recharger mon téléphone portable, c'est pour vous dire. Et là, c'est dans une salle en dur, en fait, au chaud, à la gare de Brionne, qu'ils ont débriefé leur rencontre avec la secrétaire d'État chargée d'animer le débat. Et vous allez entendre cet échange entre Bruno Aude et Christian, les avis sont partagés.
Ils nous ont demandé de faire un débat, aujourd'hui il est lancé, à eux de prouver qu'ils sont capables d'aller dans le bon sens. La balle maintenant est dans leur camp, en réunissant les gens, en prenant vraiment les cahiers de doléances, ce qu'on a pu amener, ce qui va remonter entre guillemets de la base. Bah, ils ont du travail, hein, ils ont du pain sur la planche, et là, va falloir qu'ils grattent, quoi. Il va falloir qu'ils se mettent au turbin.
Le grand débat, mais pour avoir un débat, il faut pouvoir parler. Là, on a vu ce qui s'est passé aujourd'hui à Bourtheroult. Il ne veut pas le dialogue, juste se faire voir. S'il veut vraiment le dialogue, qu'il nous écoute.
Parce qu'à l'heure actuelle, c'est que du monologue. On n'est pas capable de nous répondre, de nous dire la ministre va nous donner une réponse dans un mois, deux mois. Il faut attendre, quoi. C'est pour ça que, pour le moment, moi, je dis il n'y a rien.
Bon, on voit des avis partagés hein, sur participer ou pas, mais en tout cas, une vraie attente par rapport aux revendications qui remontent. Alors, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Est-ce qu'ils vont continuer leur mouvement sur leur rond-point?
Eh bien oui, qui est sûr, c'est qu'ils vont continuer les manifestations chaque samedi. Aujourd'hui, ils sont à Rouen, par exemple, et continuent aussi les opérations coup de poing, comme la semaine dernière, où ils étaient devant la préfecture d'Évreux. Mercredi, ils étaient devant le centre des impôts à Bernay. Donc, continuer d'être visibles avec leurs gilets jaunes sur le dos.
Merci beaucoup, Jean-Gabriel Bourgeois. Vous le disiez, les gilets jaunes que que vous avez rencontrés sont encore mobilisés aujourd'hui pour ce 10e samedi. En première ligne aussi, les forces de l'ordre. La matinale d'Europe 1 avec Nikos Aliagas était en direct d'un commissariat d'Amiens hier. Nous avons aussi suivi les policiers lors de l'acte 9 des Gilets jaunes à Amiens. Des policiers parfois fatigués, nous dira Jean-Sébastien Soldaini. On reviendra aussi dans un instant sur la remise en cause des lanceurs de balles de défense avec plusieurs blessés graves chez les manifestants.
13h, 14h, tout terrain. Fabienne Lemoelle sur Europe 1. Europe 1.
Europe 1. 13h12, tout terrain se poursuit avec vous, Fabienne Lemoelle. Et bien sûr, on continue à parler de la mobilisation des Gilets jaunes.
Et 10e samedi de mobilisation, une nouvelle fois dispositif maximal de sécurité. Europe 1 était en direct du commissariat d'Amiens hier matin avec Nikos Aliagas. L'occasion de voir comment les policiers de terrain vivent ces manifestations à répétition depuis 2 mois. Bonjour Jean-Sébastien Soldaini.
Bonjour Jean-Sébastien Soldaini.
Bonjour.
C'est vous qui étiez à Amiens la semaine dernière avec les forces de l'ordre pour cet acte 9 des Gilets jaunes, pour suivre leur intervention pendant cette nouvelle journée d'action. Vous étiez, comme on dit, embedded, ou alors on va dire en meilleur français, en immersion avec des policiers. Ça veut dire travailler comment concrètement ?
Eh bien, ça veut dire se fondre dans le décor. C'est-à-dire que ma présence, elle doit être transparente pour tout le monde. Vu le contexte, il fallait le moins possible que je sois identifié comme un journaliste aux côtés des forces de l'ordre. Pas de brassard presse, ni d'autocollant sur mon casque de protection, pas non plus de sigle Europe 1 sur mon micro, comme nous avons l'habitude de le faire. Transparente aussi pour les policiers. Je devais être le plus discret possible pour ne pas les gêner dans leurs opérations. Ça veut dire se plier aux ordres en cas de besoin. Et pour être honnête, ça n'a pas été nécessaire lors de ce reportage, somme toute assez calme.
Parce qu'il n'y a pas eu de heurts entre manifestants et forces de l'ordre durant cette journée à Amiens.
Non, la journée à Amiens est restée très très calme. Ils étaient 50 à 60 gilets jaunes qui n'ont pas cherché à en découdre avec les policiers.
Alors l'idée de votre reportage justement, c'était d'être au plus près d'eux dans le cadre de quel type d'intervention ?
L'idée, c'était de les suivre au cours d'une journée entière de mobilisation, une journée gilets jaunes, du matin lors du briefing de mise en place, jusqu'à la fin de la journée et la dispersion des manifestants. Après ce briefing, ils partent immédiatement sur le terrain. En amont du rassemblement, l'idée c'est de tenter de dénicher des éventuels fauteurs de troubles. J'ai donc assisté à plusieurs contrôles. Ça s'est passé dans un parc, ça s'est passé dans les rues de la ville. De simples contrôles d'identité qui commencent parfois de façon un peu tendue, vous allez l'entendre, mais la tension retombe assez vite.
Bonjour. Vous avez été contrôlé ?
Et pour quelle raison ?
Parce qu'on a un article 78-2-2 du procureur de la République qui nous autorise à contrôler tout.
Quoi ?
78-2-2 du code de procédure pénale établi par le procureur de la République, donc qui nous autorise à contrôler toute personne sur le secteur.
Ah ouais, bon, bah, voilà. On n'a plus le droit de circuler.
Ah, si, tout à fait, tout à fait. Si, vous circulez, bon, on va juste s'assurer de votre identité et que vous n'êtes porteur d'aucun objet interdit.
Alors, c'était le 9e samedi de mobilisation des Gilets jaunes, 9e samedi où les forces de l'ordre, et là, en l'occurrence, les policiers du commissariat d'Amiens, étaient face à eux. Ils sont face à qui, justement, Jean-Sébastien ?
Les regroupements sont très variés. Il y a ce qu'ils appellent des gilets jaunes modérés, ceux qui portent des revendications sur le coût de la vie, les baisses des taxes, etc. Ensuite, lorsqu'il y a des violences, il y a 2 types de profils qui se dégagent. C'est ce que décrit le brigadier-chef Christophe. Il a d'abord vu une évolution vers la violence chez certains de ces gilets jaunes.
Alors, les premiers contacts qu'on a eus avec les gilets jaunes, ça se passait super bien. On était bien accueillis au sein des ronds-points quand ils allaient bloquer. Cette personne-là nous expliquait pourquoi elle était là au premier mouvement, au départ au 17 novembre. Et progressivement, avec ce qui s'est passé sur Paris, ça a déteint, j'ai l'impression, sur la province. Et là, tout doucement, les jeunes, les moins jeunes, sont devenus de plus en plus agressifs.
Donc on le voit, ils ont constaté au fil des semaines une montée de la violence sur le terrain, avec des interlocuteurs qu'ils retrouvaient semaine après semaine. Comment vous les avez trouvés, ces policiers, qui sont sur le pont depuis presque 2 mois maintenant ? Il y a de la fatigue, de la lassitude. Est-ce qu'ils acceptent déjà facilement d'en parler ?
Il y a tout ça. Il y a de la fatigue, il y a de la lassitude. Ils en parlent assez facilement. Leur discours, c'est d'admettre tout ça, la fatigue, la lassitude, toujours en expliquant que c'est le métier qui veut ça, qu'il faut faire respecter l'ordre, quelles que soient les contraintes. Et voilà comment cette fatigue s'exprime.
On enchaîne les samedis à répétition et oui, il y a une fatigue qui s'installe de plus en plus.
Elle est due à quoi ?
Alors c'est vrai que les amplitudes horaires, nous quand on est rappelé les samedis, on sait à l'heure à laquelle on va commencer et on ne sait pas à l'heure à laquelle on finit. le boulot par lui-même, au début on est parti sur des rassemblements, on va dire, citoyens, bon enfant, et progressivement on est parti dans des dérives de violence et qui nous affaiblissent un peu plus aussi.
Voilà, on voit bien l'évolution des choses à travers ce que vous dit ce brigadier chef, fatigue, lassitude. Et il y a aussi un autre sentiment que vous avez entendu, Jean-Sébastien, c'est la peur. Et là, c'est Stéphanie, elle est membre des équipages de patrouilleurs et elle s'est confiée.
On a toujours peur de voir quelqu'un qui est déterminé et qui veut en découdre vraiment, d'essayer de nous coincer pour pas qu'on puisse avancer. Quand on est là depuis 6h30, la fatigue, elle s'installe, donc on n'est peut-être plus... à 100%, on va dire. Là, on peut être blessé ou on peut se blesser. On est vraiment en danger à ces moments-là quand on doit vraiment mettre tout pour les faire reculer. Oui, effectivement. Le stress est permanent de rentrer tous à la maison en bon état, quoi.
Il y a ce risque, il y a, avec la fatigue, avec le stress, qui est tout à fait compréhensible, c'est que parfois, dans un moment de tension, on puisse aussi perdre son discernement dans
ça,
le,
vous
dans
en
le
en
feu de l'action. Non, ils n'en parlent pas, mais on sent quand même qu'il y a cette crainte peut-être de commettre une bêtise, on va le dire comme ça. Ça engendre de la fatigue, du stress chez ces policiers du commissariat d'Amiens, mais on imagine aisément que c'est partout pareil, sur tous les lieux de rassemblement de Gilets jaunes.
Merci beaucoup Jean-Sébastien Soldaini. Justement, la polémique n'a cessé de grandir cette semaine sur l'utilisation des LBD, les lanceurs de balles de défense, avec plusieurs blessés graves lors des manifestations. On va entendre leur témoignage dans un instant et on verra avec Pierre de Cossette pourquoi le ministre de l'Intérieur ne veut pas suspendre l'usage de ces armes. Il l'a redit hier matin sur Europe 1.
13h, 14h, tout terrain. Fabienne Lemoyle sur Europe 1.
Jusqu'à 14h sur Europe 1, on revient sur les événements marquants de la semaine passée avec les correspondants et les reporters d'Europe 1. Vous écoutez Tout Terrain avec Fabienne Lemoyle.
Et vous l'avez entendu cette semaine sur Europe 1, la polémique n'a cessé de grandir autour de la bonne utilisation d'une arme dans le maintien de l'ordre des manifestations. En cause, les LBD ou lanceurs de balles de défense, avec plusieurs blessés chez les Gilets jaunes. Bonjour Théo Manval.
Bonjour Fabienne.
Vous avez justement rencontré plusieurs de ces blessés graves, on les a entendus sur Europe 1 cette semaine. Dans quelles circonstances ont-ils été blessés ?
Ce qui interpelle, c'est qu'ils l'ont tous les trois été en tentant de quitter la manifestation, de sortir du cordon de sécurité formé par les CRS, parfois au milieu d'un climat de tension. Mais au moins deux d'entre eux disent que ça s'est passé alors qu'ils avançaient calmement vers les forces de l'ordre pour partir dans un contexte qui, selon eux, laissait peu de place aux doutes sur leur dangerosité potentielle. David, par exemple, a été blessé lourdement à la mâchoire le 1er décembre. Rue Paul-Valéry, c'est une petite rue parallèle aux Champs-Élysées.
C'était une rue toute calme. Pas de voiture incendiée, pas de vitrine cassée. On avance main dans la main avec ma copine, les bras en l'air, tranquillement, pour sortir. Et d'arriver à quoi, 10 mètres des CRS, je m'effondre au sol. J'ai pas le temps d'entendre. Ça part, ça tape, les yeux révulsés, je convulse, je crache mes dents, ma mâchoire. Les médecins, ils nous ont enlevé la balle à 330 km/h par rapport aux dégâts. Donc t'as pas le temps d'entendre une détonation, t'as le temps de rien voir, ça part, c'est fini. Il y a eu aucune sommation. Ils m'ont laissé approcher. Il y a mon essai, c'est clairement voulu.
On entend ce que dit David. Quand vous l'avez rencontré, il était dans quel état physiquement ?
Il se remet petit à petit. Il est sorti de l'hôpital il y a un mois et demi. Il faut savoir qu'il a dû subir une opération assez lourde parce qu'il a 3 fractures entre la mâchoire et le palais. J'ai pu consulter son dossier médical. Il a perdu 4 dents. Il en perdra peut-être 3 autres. Il attend de subir maintenant une greffe osseuse. Et il y en a d'autres, des blessés, pour qui c'est encore plus grave. Patrice, par exemple, a carrément perdu un œil le 8 décembre dernier. Près des Champs-Élysées, il a été frappé d'encore plus près.
J'avançais vers les gendarmes mobiles pour quitter la manifestation, sans signe d'agressivité ou quoi que ce soit. Je vois le gendarme mobile qui me vise et je pense que c'est pas pour moi, puisque je me dis, mais je suis trop près, c'est pas possible. Et à 5-6 mètres de eux, je prends un tir de flashball dans l'œil droit. Le choc était d'une extrême violence. Je ne verrai plus de cet œil. Je suis chauffeur routier, j'étais. Je perds mon œil, mon métier.
Voilà, on entend les conséquences physiques de ces blessures. Il y a aussi des conséquences psychologiques.
Oui, parce que c'est vécu comme un traumatisme. Un David qu'on a entendu tout à l'heure m'expliquait par exemple que dans les premières semaines après sa sortie d'hôpital, quand il est rentré chez lui, il a pensé plusieurs fois à prendre sa moto et à s'envoyer dans le décor, à mettre fin à ses jours, parce que sa vie est devenue très compliquée après l'opération.
Je ne peux pas manger des choses de dur, je ne peux plus me moucher, c'est terminé. Sous la peine de faire exploser mon palais, ça pourrait créer une pression. Je dors très peu, en fait, que des cauchemars. Je suis réveillé par les tirs d'LBD, les grenades. Ils ont détruit quelques années de ma vie, quoi.
Qu'est-ce que vous avez envie de dire, justement, aux forces de l'ordre ?
Pourquoi ? Pourquoi ?
Donc, on vient d'entendre ces témoignages hein, très forts. C'est leur parole.
Évidemment.
Est-ce que ça se traduit déjà judiciairement par un dépôt de plainte ?
Effectivement, vous le disiez, c'est à ce stade parole contre parole, hein, même si dans certains cas, il y a des vidéos. Tous les trois, ils comptent porter plainte. Les trois
ils
personnes que j'ai rencontrées, il y en a un qui l'a déjà fait, c'est Patrice. C'est pas tellement aux gendarmes qui a tiré, qui l'en veut. C'est plus à l'institution dans son ensemble, finalement à l'État qu'il veut s'attaquer aujourd'hui.
Merci beaucoup Théo Manval.
Merci à vous.
Pierre de Cossette du service police-justice d'Europe 1 nous a justement rejoint en studio. Bonjour Pierre.
Bonjour Fabienne.
Alors à travers ces témoignages qu'on vient d'entendre, se pose une nouvelle fois la question de ces armes, les LBD, pour lanceurs de balles de défense. Le défenseur des droits Jacques Toubon l'a redit sur Europe 1 jeudi soir, il veut qu'on suspende l'utilisation de ces armes. Sans aller jusque-là, Éric Morvan, le directeur général de la police nationale, a rappelé cette semaine à ses troupes quand et comment elles peuvent être utilisées. Car Pierre, on voit que ces règles ne sont pas toujours respectées. C'est quoi les règles d'ailleurs ?
Alors, il y a plusieurs aspects, Fabienne. D'abord, le cadre dans lequel on a le droit de se servir de cette arme. Dans le lanceur de balles de défense, il y a le mot « défense ». Donc, soit défense du policier ou du gendarme lui-même, s'il est victime de violence, c'est de la légitime défense, si vous préférez. Évidemment, il faut que l'usage du LBD soit proportionné à l'agression subie. Et puis, il y a la défense du terrain, quand on n'a pas d'autre choix pour tenir sa position. D'ailleurs, dans ce cas-là, il faut l'ordre d'un supérieur pour tirer. La deuxième contrainte, c'est la manière dont on doit se servir de l'arme. Et là, la règle est très claire. On vise en dessous de la ligne d'épaule, donc thorax ou jambe.
Donc on l'a bien compris, pas au visage, alors que les témoins qu'on entendait tout à l'heure ont été blessés au visage. Et il y a aussi une distance.
Oui, en fonction du type de munition qu'on utilise, pas en dessous d'une certaine distance. Et de toute façon, après, les munitions ne sont pas efficaces au-delà d'une certaine distance non plus.
Alors ce n'est pas la première fois que l'usage de ces armes pose question. Il y a eu le précédent du flashball.
Oui, c'est vrai. D'ailleurs, le flashball, qui est un modèle de fabrication française, n'équipe plus les forces de l'ordre. Il a été retiré de la dotation. Pourquoi ? Parce qu'il n'était pas assez précis et qu'il y a eu des blessés graves. Le lanceur de balles de défense, c'est le terme générique, on va dire. Celui utilisé aujourd'hui en France est fabriqué en Suisse. Il a un système de visée et en fonction des munitions, j'en parlais, on peut tirer plus ou moins loin. Il y a les balles en caoutchouc avec un culot blanc de 10 à 50 mètres et celles avec un culot noir pour un tir de 3 à 30 mètres. Toutes les unités ne sont pas dotées du même type de munitions, mais vous l'aurez compris, la même balle en caoutchouc reçue à 10 mètres ou à 50 mètres ne produit évidemment pas le même effet.
Alors Jacques Toubon veut la suspension des lanceurs de balles de défense. On l'a dit, écoutez ce que Christophe Castaner lui a répondu dans la matinale d'Europe 1 en direct du commissariat d'Amiens, c'était hier matin.
Les policiers, ils ont des moyens de défense. Le LBD est seulement un moyen de défense qui leur permet justement, dans les cas où ils sont acculés, de pouvoir se libérer. Si vous supprimez les moyens de défense, il leur reste le contact physique et il y aura certainement beaucoup plus de blessés, où il leur reste l'utilisation de leurs armes de poing, qui est la solution ultime.
Pas question d'arrêter d'utiliser les LBD ?
Ah mais vous mettez quoi à la place, Madame Crespo-Mara, dans les mains de nos policiers ?
Donc on comprend bien, en écoutant Christophe Castaner, que pour lui, ces lanceurs de balles de défense, c'est une arme intermédiaire.
Oui, ce sont des armes censées être non létales et ne doivent pas tuer. C'est vrai que les policiers ne voient pas aujourd'hui comment ils feraient si on leur retirait les problèmes qui se sont fait jour depuis le début du mouvement des Gilets jaunes. Quels sont-ils ? Le premier d'entre eux, c'est le type de manifestation auquel on assiste. Il y a quelque chose d'hybride qui est presque du jamais vu pour les policiers dans ce mouvement. On est entre le maintien de l'ordre classique et les violences urbaines. Or, se servir d'un LBD dans une foule où se mêlent des casseurs et des manifestants pacifistes, c'est le risque de dommages collatéraux. Ensuite, qui doit pouvoir faire usage de ces lanceurs ? On sent bien une gêne chez des policiers de terrain. On peut entendre chez certains CRS un peu de circonspection quand ils voient que des équipes de sécurité publique ou de la BRI sont dotées de LBD. Il peut y avoir ce sentiment que dans ces unités, les policiers ne sont pas suffisamment bien formés et qu'ils ont un peu la gâchette facile, comme s'ils étaient pris, par exemple, d'assaut par une bande dans une cité sensible.
Alors, pour l'instant, pas de suspension prévue. D'ailleurs, il y a eu un appel d'offres pour acheter 1300 armes supplémentaires. Pourtant, il y a des pays qui ont fait un autre choix.
Oui, dans les pays du nord de l'Europe, on a abandonné les LBD. Ce qui est certain, c'est que même si Christophe Castaner maintient que ces armements n'ont pas vocation à disparaître de l'équipement des forces de l'ordre en France, on voit bien que ça entraîne une réflexion sur la doctrine de ce qu'on appelle le MO, le maintien de l'ordre, le recours au canon à eau, qui a plutôt fait la preuve de son efficacité. Bref, il y a beaucoup de pistes de réflexion qui sont lancées, même si pour l'instant, l'exécutif reste ferme sur l'usage usage de ces LBD.
Et on rappelle que, toujours sur Europe 1, Christophe Castaner a précisé hier matin que la police des polices s'était saisie de 81 enquêtes depuis le début du mouvement des Gilets jaunes, des enquêtes qui vont de l'insulte à la blessure grave. Merci beaucoup Pierre.
Europe 1.
À suivre, et si après les gilets jaunes, on avait les cirés jaunes, l'inquiétude monte chez les pêcheurs français alors que se profile un Brexit dur. Dans un instant, on est à Boulogne-sur-Mer.
Europe 1, Europe 1. 13h33, on retrouve Fabienne Lemoyle pour la suite de Tout Terrain. Et maintenant, Fabienne, eh ben on va s'intéresser aux pêcheurs français.
Après les gilets jaunes, va-t-il y avoir des cirés jaunes? Beaucoup de pêcheurs français redoutent en effet de ne plus pouvoir pêcher dans les eaux britanniques si un Brexit sans accord se confirme, avec à la clé, pourquoi pas, des affrontements en mer entre flottilles. Martin Fenot était à Boulogne-sur-Mer, le plus grand port de pêche français, mercredi matin.
Alors je suis face à des pêcheurs qui sont en train de décharger leur cargaison de poissons. Je suis sur le quai du plus grand port maritime de France,
j'entends
à Boulogne-sur-Mer, avec des pêcheurs qui sont inquiets ce matin.
Bonjour Martin Fenot.
Bonjour Fabienne.
Vous étiez avec ces pêcheurs, on va le rappeler, c'est important, au lendemain du rejet par les députés britanniques de l'accord conclu par Theresa May à Bruxelles avec l'Union européenne sur le Brexit. Vous dites que ces pêcheurs français sont inquiets, expliquez-nous pourquoi.
Eh bien parce que ces pêcheurs, quand je les ai rencontrés donc sur le port, ils rentraient les caisses pleines de poissons, des poissons qu'ils avaient pêchés dans les eaux britanniques. C'est une des zones où ils vont chercher le poisson. Or, ce droit d'aller pêcher en territoire britannique, il repose évidemment sur un accord qui a été conclu il y a plusieurs dizaines d'années. On parle même de zones historiquement exploitées par les Français. Le problème, c'est qu'avec le Brexit, les accords sont caducs, il faut renégocier, tout est remis à plat. Or, avec le vote du Parlement britannique qui s'oppose à l'accord négocié par Theresa May, le signal est très mauvais, les négociations se passent mal. C'est pour ça qu'on dit qu'on s'achemine vers un Brexit dur. Brexit dur, ça peut vouloir dire fermeture des eaux britanniques. Or là, ça voudrait dire que les pêcheurs français n'auraient plus le droit d'aller pêcher chez les Anglais.
Et ça représente justement quelle proportion de leur pêche d'aller dans ces zones britanniques ?
Alors, le pêcheur que vous allez entendre, il s'appelle Jean-Marie Baeux, c'est 60% de sa pêche. Il se rend en mer du Nord, une mer particulièrement poissonneuse. Vous imaginez, 60%, c'est énorme, hein, d'où son inquiétude. Je vous propose de l'écouter.
On suit le poisson, en fait. Le poisson, il n'a pas de limite, il n'a pas de frontière, lui. Hein. Plus souvent, il est dans les eaux anglaises. Ouais. De l'arrêt, du turbo, de la sole, du bar. Si on nous retire les eaux anglaises, il y aura des matelots en moins, licenciement de matelots. Au lieu de 4 matelots, ben, on passera à 2 matelots. Pour arriver à compenser la perte.
Bon, voilà pour le pêcheur que vous venez d'entendre. Il faut savoir que le fils de ce pêcheur est aussi marin. Ils travaillent ensemble sur le même bateau pour l'instant parce que le père aimerait bien passer le flambeau dans les années qui viennent. Sauf que le Brexit, bah, ça remet en question cette idée-là. C'est clairement l'entreprise familiale qui est en danger.
Alors l'entreprise familiale de ce pêcheur en danger, mais c'est en fait toute la profession qui s'inquiète, Martin. On a entendu cette semaine Gérard Romiti, qui est le président du Comité national des pêches, qui dit, après ce vote négatif des députés britanniques, si jusque-là nous naviguions dans le brouillard, maintenant on est en eau trouble, c'est bien ça.
Oui, et ça s'est senti particulièrement à Boulogne-sur-Mer, parce que c'est le plus grand port maritime de France. Il y a une soixantaine de bateaux qui sont amarrés ici, des bateaux de pêche de taille moyenne, des plus gros navires pour qui la pêche en territoire anglais représente parfois 100% du travail. Sauf qu'évidemment, il n'y a pas que les Français qui bénéficient de ce droit d'aller pêcher chez les Anglais. Il y a aussi les Belges, par exemple, les Hollandais, d'autres pays européens. Le problème, c'est que si les eaux anglaises sont plus accessibles, ils vont aller pêcher ailleurs, dans les eaux françaises, par exemple. Et ça, c'est clairement une inquiétude pour ce représentant des pêcheurs de Boulogne-sur-Mer, Stéphane Pinto. Il dit que si c'était le cas, ils seraient trop nombreux dans les eaux françaises. Et donc, ce serait la guerre, hein, ce sont ces mots. Écoutez-le.
Ça peut nous amener à une guerre de flottilles. Il va y avoir un rassemblement de flottilles qui ne sont pas du tout dans les mêmes techniques de pêche. Et c'est sûr que les unes avec les autres, on va se gêner pour travailler dans la bonne cohabitation. Ben, les pêcheurs français seraient contre les pêcheurs belges, hollandais ou autres qui viendraient pêcher chez nous. Ça serait la guerre de toute manière, ça c'est sûr. Ce serait la bataille navale dans les eaux de France.
On l'entend, donc c'est tendu. On se souvient d'ailleurs à une autre époque qu'il y a une guerre entre pêcheurs français et espagnols. Mais est-ce que les Anglais ont vraiment intérêt à en arriver là ?
Ce qu'on sait, c'est que les Anglais, évidemment, ils pêchent eux aussi. Leur pêche, il faut la vendre. Et pour la vendre, ils en exportent une partie dans les pays de l'Union européenne. Donc ce qu'on sait, c'est que c'est aussi là-dessus que reposent les négociations sur les conditions d'entrée dans l'Union des produits anglais et, pour ce qui nous intéresse, des produits de la pêche.
Merci beaucoup Martin Fenot. Et on comprend en vous écoutant pourquoi les pêcheurs français ont tout intérêt à ce qu'il y ait un nouvel accord négocié entre le Royaume-Uni et Bruxelles, et surtout pas de Brexit dur s'ils veulent pouvoir continuer à pêcher dans les eaux britanniques, et particulièrement, on le disait, en mer d'Irlande et en mer du Nord. Merci Martin.
À bientôt Fabienne.
Europe 1.
À suivre, quand l'humour vire au sexisme, vous verrez que les blagues de blonde ne sont pas toujours aussi anodines qu'on le croit.
13h, 14h,
l'actualité de la semaine racontée par ceux qui l'ont couverte
avec Fabienne Lemoyle sur Europe 1. Il est 13h40, l'émission Grand Reportage Tout Terrain se poursuit avec vous, Fabienne Lemoyle.
Quand l'humour vire au sexisme, constat du Haut Conseil à l'égalité cette semaine qui pour la première fois a dressé un état des lieux en passant au crible les youtubeurs.
Tu peux me dire si je suis plus grosse ou moins grosse qu'elle ?
Bon déjà, il faut surtout pas être sincère. Mais franchement, t'es pareil.
Je suis aussi grosse que Stono ?
Non, franchement, t'es moins grosse.
En plus, tu mens ?
Bonjour Ève Roger.
Bonjour.
Chef du service Société et Culture d'Europe 1. C'est donc la première fois qu'un tel état des lieux est fait. Et ce qui est important, c'est que ce n'est pas une association qui est derrière cet état des lieux.
Non, c'est le Haut Conseil à l'égalité entre les hommes et les femmes qui est une haute autorité. Et c'est une obligation légale depuis la loi de janvier 2017 d'égalité et citoyenneté. Il est dit dans la loi que chaque année, il doit y avoir un état des lieux du sexisme. Et donc, c'est le premier état des lieux du sexisme.
Et ça donne quoi ?
Alors, l'idée, c'est qu'ils ont étudié à partir de sondages déjà. Donc, 10 millions de femmes ont été victimes d'actes sexistes. Alors qu'est-ce que c'est qu'un acte sexiste ? C'est une remarque, c'est une humiliation qui sont liées au fait d'être une femme. Donc ça fait à peu près 4 sur 10. Et puis, ils ont mis un coup de projecteur sur les injures sexistes et sur l'humour sexiste. Et sur les injures sexistes, il y a vraiment des études qui ont été faites par l'Observatoire national de la délinquance. Et il apparaît que 1 200 000 femmes en 2017 ont été victimes d'injures sexistes.
Qu'est-ce qu'elles s'entendent dire ?
Alors, éloigner les enfants, parce que je veux dire des gros mots. On a un top 3 des injures sexistes. C'est d'abord salope, pute et connasse. Pardon de le dire, mais c'est comme ça. Dans 70% des cas, c'est fait par quelqu'un qu'elles ne connaissent pas. Donc, c'est des injures dans la rue sur des femmes qui n'ont rien demandé.
Alors, la haute autorité s'est aussi attachée à passer au crible les radios et les matinales les plus écoutées.
Voilà, c'est un choix. Hein. Elles ont fait un coup de sonde dans ce qu'elles appellent l'humour populaire, c'est-à-dire effectivement les trois matinales, la nôtre bien sûr, le RTL et France Inter, et sont allées voir du côté des humoristes. Et c'est vraiment assez stupéfiant puisque 70% des blagues ont des ressorts sexistes. Alors ça vaut en particulier dans les imitations où vous le savez, vous l'entendez, les femmes politiques passent vraiment toutes pour des cruches ou des incompétentes. Alors que les hommmes, c'est pas ce type d'attaque-là. Les hommes ont...
Pourtant, ils sont attaqués aussi.
Les hommes sont aussi attaqués. C'est ça, mais pas sur le fait qu'ils soient hommes. On s'amuse de leur manque d'autorité ou de leur trop d'autorité, mais c'est pas sur le fait que ce soit des hommes.
Vous simplement
c'est
ça. D'être une femme.
Voilà, c'est autrement. Ça. Les femmes, c'est simplement sur les stéréotypes qu'on a des femmes.
Ils ont regardé aussi YouTube, qui est quand même ce qui est le plus regardé par les ados.
C'est ça, les ados et les jeunes.
Et là, je vais pas dire que c'est la palme leur revient, mais quand même.
Alors, elles ont regardé les vidéos les plus suivies de Norman et Cyprien. Je sais pas si ça vous dit quelque chose. C'est
oui,
les deux youtubeurs qui ont des millions de followers, donc ils ont regardé les trois vidéos les plus regardées de chacun, et c'est vrai que c'est Norman, comme ça, qui obtient la palme. Je vais vous faire écouter des extraits d'une vidéo qui s'appelle La jalousie dans le couple, et là, il joue sur les stéréotypes de la femme en couple. Alors, comment elle est, la femme en couple ? Ben là, vous allez l'entendre, elle est forcément agressive, jalouse et superficielle.
Tu peux me dire si je suis plus grosse ou moins grosse qu'elle ?
Bon, déjà, il faut surtout pas être sincère. Mais franchement, t'es pareil.
Je suis aussi grosse que Stono ?
Non, franchement, t'es moins grosse.
En plus, tu mens ?
Ni être hésitant. Ouais, ça dépend.
Non mais en plus, t'en profites pour mater ?
Non.
Donc là, c'est des attaques sur le physique.
Sur le physique et sur le stéréotype féminin. C'est-à-dire, une femme en couple, c'est forcément une mégère. Et vous allez voir, non seulement c'est une mégère, mais aussi, elle est stupide. Écoutez.
C'est qui cette grosse pute dégueulasse et vulgaire là qui est avec toi sur la photo ?
Bah c'est toi ça.
Ah ouais, c'est marrant.
C'est cette histoire de stéréotypes qui sont intéressantes à regarder. Et c'est là-dessus que Danielle Bousquet, qui est la présidente de la Haute Autorité, veut insister parce qu'elle dit qu'il faut déconstruire ces stéréotypes-là pour déconstruire cet humour sexiste.
Les femmes sont bavardes, elles sont légères, elles sont hypocrites. La quasi-totalité d'entre elles, bien sûr, elles sont blondes, donc elles sont bêtes. Et on fait des blagues en se moquant de ces caractères qui seraient féminins et dont aucun d'entre eux n'est élogieux.
Bon, on entend bien ce que dit Danielle Bousquet. Ève, je vais me faire l'avocat du diable. L'humour n'a-t-il pas tous les droits, quand même ? Et puis, les remarques qu'on entend sur les... Effectivement, on s'est tout interrogé sur « j'ai pris quelques kilos de trop, comment tu me regardes ?» On demande ça à son conjoint. Où est le mal ?
Oui, alors, il y a deux choses. La première chose que dit le Haut Conseil dans son rapport, c'est de dire « ces injures, ces humiliations, eh ben, ça fait mal autant qu'un coup ». Ça sape petit à petit le moral des femmes, ça sape leur sentiment de reconnaissance de soi. Il y a vraiment une violence qui s'exerce là et qui n'est pas visible, mais qui fait un travail de sape.
Ça infuse.
Et voilà, c'est ça. Ça infuse chez les femmes qui ont déjà intériorisé. Puisqu'elles-mêmes, elles rient des blagues sexistes. Elles donnent un chiffre, c'est 15% des femmes qui rient des blagues sexistes. Donc, en fait, de rire de soi-même, eh ben, c'est pas très bon pour sa self-esteem. Et puis, la deuxième chose que dit le Haut Conseil, c'est qu'il y a un continuum des violences. C'est-à-dire que le matin, si vous partez, vous écoutez la radio, il y a des blagues sexistes. Dans la rue, vous faites injurier et il y a d'une certaine façon cette idéologie que la femme est inférieure et qu'on peut rire de son statut, et ben ça finit que le soir, elle peut se faire battre par son mari ou éventuellement se faire violer. C'est un continuum des violences. C'est ce que dit le Haut Conseil. Alors, je ne sais pas si c'est vrai, mais en tout cas, c'est la base sur laquelle se fonde ce sexisme dans la société. C'est-à-dire qu'après, on saura de quoi on rit, mais ça ne sera pas fait sans conscience.
Merci beaucoup, Ève Roger.
Europe 1.
À suivre, les vedettes du PSG pendant 4 jours au Qatar. On va voir avec Julien Froment les dessous de cette opération séduction.
13h, 14h, tout terrain. Fabienne Lemoyle sur Europe 1.
Chaque samedi de 13h à 14h, vous écoutez Fabienne Lemoyle. Tout terrain, suite et fin. On termine avec du sport, Fabienne.
Les stars du PSG en mode opération séduction sous le soleil du Qatar pendant 4 jours. C'était cette semaine, comme vous l'a fait vivre l'envoyé spécial d'Europe 1, Julien Froment.
Arrivé à 19h30 heure locale, les joueurs du Paris Saint-Germain, malgré les 6 heures de vol, se sont prêtés au jeu des selfies et autographes. Abdellah, téléphone à la main, est comblé. Il a pu faire poser toutes les stars parisiennes avec lui.
J'ai pu faire des selfies avec Gigi Buffon, Neymar, Mbappé, Cavani et Angel Di Maria. C'est un rêve pour moi de voir ces gars-là. Je les regarde à la télé. C'est vraiment très spécial pour moi.
Bonjour Julien Froment.
Bonjour.
Vous venez tout juste de rentrer du Qatar. Déjà, plantez-nous un petit peu le décor.
Ah bah écoutez, c'était bruyant. Du matin au soir, même la nuit, c'est tout simplement un chantier à ciel ouvert, Doha et même le Qatar plus généralement. Parce qu'il y a la Coupe du Monde qui arrive assez rapidement, en 2022. Eh bien, on veut construire au plus vite toutes les infrastructures. Et donc, eh bien, il n'y a pas de solution autre que de construire jour et nuit. Ça ne s'arrête pas. Et c'est vrai que c'est assez perturbant, assez intriguant quand on arrive dans ce pays d'avoir le bruit des marteaux-piqueurs à 3h, 4h du matin.
Et on en reparlera effectivement parce que ça pose évidemment de grosses questions sur les conditions de travail de ces ouvriers sur ces chantiers. Alors, ça peut paraître en tout cas surprenant de vous retrouver au Qatar en plein mois de janvier avec le PSG, alors que le club, normalement, était supposé jouer un match en retard. C'était quoi ? C'était un stage de remise en forme ?
Alors, pas vraiment. Faut le dire très clairement, le PSG n'était pas là-bas pour jouer au football. Alors, si Paris était à Doha, au Qatar, eh bien, c'est pour du business. Parce qu'on le rappelle, le PSG appartient à l'émir, Tamim Al-Thani, et que le Paris Saint-Germain a des contrats signés avec des partenaires du Qatar, des contrats mirifiques, on parle de 100 à 200 millions d'euros, pour remplir les caisses tout simplement du club, puisque ça peut permettre d'acheter des joueurs, de faire tourner tout simplement la machine Paris Saint-Germain. Sauf qu'il y a un problème, c'est que l'UEFA, donc l'instance européenne du football, a un gendarme financier qui s'appelle le fair play financier, et celui-ci vérifie que les comptes sont bons du côté du PSG. Et en ce moment, Paris Saint-Germain a pas mal de soucis avec eux. Et donc, si Paris est allé à Doha, au Qatar, eh bien, c'est pour légitimer ses contrats, pour dire, si le Qatar nous donne tant d'argent, eh bien, c'est parce que nous, en contrepartie, on fait la pub du pays.
Alors, ça se passe comment, justement, ces contreparties ?
C'est une campagne de communication qui est hyper calibrée. Le Paris Saint-Germain est allé faire signer des maillots dans les centres commerciaux, à nouer des nouveaux partenariats avec des nouvelles marques à l'international. Il y a eu aussi, bien sûr, beaucoup de médias étrangers invités. Alors, ils sont de la Colombie, de Chine, d'Espagne, d'Angleterre. Tout est fait pour faire parler et du Paris Saint-Germain et du Qatar. Les deux sont intimement liés.
Ça passe aussi par des produits dérivés.
Oui, par exemple, des t-shirts avec la tête de joueurs du Paris Saint-Germain. Alors, 100 euros tout de même,
le
t-shirt. Et dessus, par exemple, il y a le visage de Thiago Silva, Kylian Mbappé ou encore Marco Verratti, le milieu de terrain italien qui s'en amuse.
C'est un peu bizarre, mais je suis content. C'est quelque chose qui n'arrive pas tous les jours. C'est pour ça qu'il me fait plaisir et je suis content. Ils sont jolis, les maillots. Pas mon visage, mais les maillots, ils sont bien. On sait que c'est nécessaire pour les clubs. C'est vraiment important et on les fait avec plaisir.
Et ce genre de partenariat, ça permet de toucher un public qui ne s'intéresserait pas au Paris Saint-Germain à la base. Cela fait partie de la stratégie du club, se diversifier pour mieux régner. Là aussi, c'est un levier supplémentaire, comme je vous l'avais dit précédemment, pour remplir les caisses dans l'optique du fair play financier.
On voit bien les relations entre le PSG et le Qatar, mais est-ce que le PSG, dont le propriétaire est quand même l'émir, est vraiment populaire au Qatar ?
Alors on pourrait croire que le Paris Saint-Germain joue à domicile, mais c'est pas encore tout à fait le cas. Il y a ce qu'on pourrait appeler un frémissement. Alors le plus bel exemple, hein, c'est l'entraînement qui était ouvert au public au Khalifa Stadium. C'est le stade qui hébergera des matchs du Mondial 2022. Et bien dans ce stade, il y avait entre 5000 supporters, alors ça c'est selon nos observations, et 15000 spectateurs selon les chiffres donnés par le club. Apparemment, ils sont venus librement, il n'y a pas eu de contrepartie.
Il n'y a pas eu de contrepartie voilà, pour qu'ils viennent dans le stade.
Non, il y avait vraiment un engouement. Et d'ailleurs, les locaux étaient assez surpris de voir autant de personnes venir assister à un simple entraînement de Kylian Mbappé, Neymar et compagnie.
C'est dû à qui, justement ? À quel joueur ?
Justement, voilà, c'est dû à un joueur, il faut le dire, c'est Neymar, le Brésilien.
Mbappé ? Ah non !
Eh non, pas encore. Mais le Brésilien, il est apparu sur les écrans géants. Et là, c'était vraiment la cohue. Un supporter a même tenté d'entrer sur la pelouse pour prendre un selfie. Ce qui est apparemment du jamais vu au Qatar. Et ils sont beaucoup à avoir changé d'équipe favorite pour Neymar. C'est le cas de Joachim.
C'est définitivement grâce à Neymar que j'aime le PSG. Avant, je le supportais avec le FC Barcelone, mais maintenant, je supporte Paris à cause de Neymar.
Voilà, ces propos, Fabienne, ont été confirmés aussi par un ancien joueur du Paris Saint-Germain, Didier Domi. Il vit au Qatar depuis 7 ans et pour lui, eh bien, la notoriété des Parisiens a évolué et en bien.
J'étais vraiment surpris, moi qui habite au Qatar, de voir autant de monde au Khalifa Stadium aujourd'hui. C'est exceptionnel parce que ça te montre un peu l'image qu'est le Paris Saint-Germain. Et puis tu vois de plus en plus de maillots. Les gens, même la Ligue des Champions, regardent beaucoup plus parce que tu sais qu'ils aiment beaucoup Barcelone et Real Madrid dans le Moyen-Orient. Puis ils sont assez Brésil ici. Donc dès que tu ramènes un Neymar et puis une star comme Kylian, qu'il est devenu, bien sûr que ça a changé l'image du Paris Saint-Germain. Et puis tu vois autant de monde aujourd'hui et surtout énormément de maillots. Il n'y avait pas ça il y a 5-6 ans. C'est vraiment des fans. Et surtout des nouveaux fans qui sont venus supporter le Paris Saint-Germain aujourd'hui.
Voilà, des fans, on l'a compris, qui viennent au stade d'eux-mêmes et pas parce qu'on les forcerait à venir éventuellement en leur offrant une contrepartie. Alors, le PSG, Julien, jouait dans un des stades du Mondial 2022, le Khalifa Stadium. Une Coupe du Monde qui, on va revenir à ce que vous disiez au début, est très critiqué, particulièrement par les associations des droits de l'homme. Il y a un rapport au mois de mars qui parlait de 18 500 ouvriers sur les chantiers qui construisent à marche forcée les infrastructures pour 2022, avec parfois 72 heures de travail par semaine. Vous préparez justement un reportage sur l'état d'avancement de ces travaux qui sera diffusé dans les Carnets du Monde de Sophie Larmoyer dans quelques semaines. Est-ce que vous avez pu poser des questions aux autorités sur ces accusations ?
Oui, c'est un sujet habituellement tabou, mais sur ce point, le Qatar a changé un petit peu à l'image du pays. Il se montre même offensif en termes de communication. Nasser Al-Khattar, par exemple, qui est le secrétaire général du comité de pilotage du Qatar 2022, lui, eh bien, a évoqué ces questions-là et il a insisté sur le fait que les instances avaient fait les changements nécessaires. Alors, malheureusement, impossible d'aller vérifier ces dires, mais c'est un enjeu de communication pour le Qatar qui digère mal, hein, bien sûr, les échos internationaux autour des trois ouvriers morts depuis 2016. En tout cas, le pays s'affaire pour que tout ou presque soit prêt en 2020, soit 2 ans avant le début de la Coupe du Monde.
Et on le voit encore, un effort de transparence à faire. Pour revenir sur vos conditions de travail générales, comment on travaille au Qatar ? Est-ce que vous aviez un peu de champ libre pour vous promener où vous vouliez par rapport à votre tour du PSG, bien
non,
sûr ?
Non, non, bah, le Paris Saint-Germain, tout est millimétré, vous savez. Hein, c'est, là,
en France aussi ?
En France aussi, même si on a eu des accès entre guillemets privilégiés avec les joueurs pour des interviews. Après, tout était chronométré parce que le Paris Saint-Germain, là-bas, on le rappelle, était pour du business et avait lui aussi un planning surchargé.
Merci beaucoup Julien Froment et on vous retrouvera dans quelques semaines, je le disais, dans les Carnets du Monde de Sophie Larmoyer, dimanche à 13h.
Europe 1.
Tout terrain, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à tous les reporters et spécialistes d'Europe 1 qui ont participé à l'émission. Rémi Pierre, Jean-Gabriel Bourgeois, Jean-Sébastien Soldaini, Pierre de Cossette, Martin Fenot, Théo Manval, Ève Roger et Julien Froment. Un grand merci aussi à Capucine Patouillet pour la coordination, Cyril Pascal et Kevin Ousty pour la réalisation et Alice Molnar à la console. Demain à 13h, vous ouvrirez les Carnets du Monde. Ce sera avec Sophie Larmoyer.